Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, 19h01, Marc Menant, depuis qu'il a acheté sa nouvelle voiture, on ne le tient plus. Vous vous la racontez, mais attention, hein, vous roulez très vite, j'ai averti.
Ah, ça y est,
non, il se la
vous
raconte
êtes dans la mode ni, voilà,
non,
ni roule trop vite.
Vous la racontez, il a acheté une voiture, ça y est, vous roulez trop vite, il faut le dire aux téléspectateurs. Hashtag face à l'info.
24 heures du Mans, 13e. Hein.
Calmez-vous. 19h, c'est l'heure. Simon Guilin pour les infos. Bonsoir Simon.
Bonsoir Christine et bonsoir à tous. L'acteur Alain Delon placé sous curatelle renforcée. Une décision prise par le juge des tutelles de Montargis aujourd'hui. Placé sous sauvegarde de justice depuis le 25 janvier pour des raisons de santé, eh bien, le tribunal de Montargis a donc renforcé les mesures de protection à l'égard de l'acteur âgé aujourd'hui de 88 ans. Emmanuel Macron dénonce des propos menaçants de la Russie après l'entretien téléphonique entre Sébastien Lecornu et son homologue russe Sergueï Shoigu. Dans un compte-rendu, Moscou a dit espérer que les services secrets français ne soient pas impliqués dans cet attentat qui a fait 144 morts, c'était le 22 mars dernier. Et puis la qualité sanitaire des eaux du groupe Nestlé n'est, je cite, pas garantie. Dans une note de l'ANSES transmise au gouvernement, des experts évoquent un niveau de confiance insuffisant pour assurer donc la qualité sanitaire de ces produits, Christian.
Merci Simon Guilin. Et au sommaire ce soir, elle a osé s'habiller à l'européenne. Elle est insultée, frappée, tabassée, fracassée. Samara, 14 ans, est sortie du coma aujourd'hui. Manque d'autorité, manque de punition dissuasive au collège, échec de la lutte contre le harcèlement à l'éducation nationale, entrisme islamiste dans les collèges, impuissance de l'État à faire respecter la loi, complicité de certains médias qui taisent une partie des faits, cette affaire de Montpellier ne symbolise-t-elle pas à elle seule la crise à tous les étages? L'édito de Mathieu Bocoté. Le pays est-il gouverné? Le pays est-il gouvernable? La dissolution plane sur le gouvernement de Gabriel Attal. Pression, motion, dissolution. C'est LR qui a la carte en main et qui tient à la jouer. Objectif, faire tomber le gouvernement à cause de la forte croissance de la dette. Est-ce réellement possible? Si dissolution, quelles conséquences? Les députés se préparent à cette éventuelle secousse. LR peut-il faire basculer le gouvernement? L'analyse de Guillaume Bigot. Quentin Bataillon assume son passage à TPMP. Si Quotidien l'invite, il s'y rendra aussi, précise-t-il. Le désormais célèbre président de la commission d'enquête sur les chaînes de la TNT persiste sur ses critiques envers Yann Barthès qu'il trouve arrogant. Hier, tous appelaient à la démission de ce député pour être allé sur C8. Certains ont même déclaré qu'il a alimenté, je cite, « la machine à haine ». Et pour un élu de la nation, c'est très grave. D'un côté, donc, la démission pour Quentin Bataillon et l'acceptation pour Aurélien Saint-Toul, qui a soigné sa stature de grand inquisiteur lors des auditions. Le regard de Marc Menant. Il a 25 rapports de police. Il frappe un policier alors qu'il est ivre. Le maire de la ville demande son expulsion des logements sociaux. Cela se passe à Franconville. Alors que les Français les plus modestes n'ont quasiment plus accès aux logements sociaux, faut-il y expulser les délinquants, y déloger ceux qui ne le méritent pas? En quoi ce système de logements sociaux concentre-t-il les problèmes de violence, de délinquance, voire de criminalité? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis l'Arabie Saoudite choisie pour présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU. Voilà qui est étonnant au vu des conditions de vie des femmes saoudiennes malgré les récentes réformes du pays. Est-ce un signe d'inversion de valeur de notre temps? Est-ce que l'ONU n'est en réalité que ce machin, comme le déclarait le président de Gaulle en 66? Ou bien veut-on nous imposer un modèle? L'édition de Mathieu Bocoté. L'édito. Allez, c'est parti avec les mousquetaires.
Merci. J'ai parlé de machin, on n'arrête plus Marc Menon.
Mais
je vous en prie, un peu de tenue.
Bah, on va à l'ONU.
Mathieu Bocoté, c'est votre édition, là, ce soir.
Oui, mais c'est grand. Sans vos mots.
Vous êtes merveilleusement bien habillé. Vous allez au mariage ou bien
d'aucune
vous êtes
manière.
Toujours comme ça.
J'essaie d'être à peu près toujours comme ça, mais ça ne fonctionne pas toujours.
Je vous invite à dire.
Ah oui, avec plaisir. Mangeons.
C'est la solidarité du bleu marine.
Ça va, vous aussi, vous êtes beau, mon Dieu.
C'est assez bleu marine, mais bon.
Oui, là, c'est... Ah, c'est bon, je... ah non, c'est avec moi, alors. Je vous aime aussi, mon Guillaume, à Charlotte,
elle a dit
ma princesse.
J'ai compris.
Hashtag face à l'impôt.
Tout le monde a un petit mot gentil, moi on me dénonce, c'est tout, d'accord.
Non,
bah, je
ne
viendrai pas la semaine prochaine.
T'as une cravate, bleu marine aussi.
Mais non, en plus, c'est vrai, il ne sera pas là la semaine prochaine, Marc. Maintenant, il va s'occuper de son auto. Voilà, alors, on commence. Merci à tous, en tout cas, d'être là. Alors, on va commencer quand même par cette histoire tragique, Mathieu Bocoté. Tragique et peut-être aussi une histoire banale, celle de Samara. Cette collégienne de Montpellier harcelée, selon sa mère, parce qu'elle s'habillait à l'européenne, parce qu'elle ne se voilait pas, harcelée et agressée. Ajoutons-le, on a même craint un instant pour sa vie et son établissement n'a pas su la protéger. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur notre France d'aujourd'hui ?
Alors, c'est une histoire qui nous est livrée par le témoignage de la mère en bonne partie. Et la mère a dit les choses avec une clarté. Alors, on y va à partir des données que nous avons aujourd'hui. Si le dossier évolue, on y reviendra. Mais à partir des données que nous avons aujourd'hui, dans le témoignage de la mère, il y a un aveu, il y a une affirmation qui résume toutes les tensions liées à l'intégration, toutes les tensions liées au choc des cultures, au choc entre l'islam et l'Europe, entre un certain islamisme qui s'est emparé de l'islam, le rapport au voile, le rapport, la part inavouée des tensions sociales souvent, c'est-à-dire le rapport entre culture et sexualité. Tout ça mis ensemble par cette phrase de la mère, elle a été en gros harcelée, agressée, tout ça, parce qu'elle s'habillait à l'européenne. Alors, c'est une phrase qui m'a tourné en tête toute la journée, et je pense que c'est notre cas à tous, parce que cette formule en dit énormément sur ce que veut dire le contrôle social communautariste, sur ce que veut dire un système de coercition culturelle qui n'est pas public, mais qui n'en est pas moins politique, et qui force les gens d'une communauté, entre guillemets, à se conformer à certains comportements, à certaines tenues, à certaines pratiques, sans quoi ils sont jugés traîtres à la communauté et ils sont donc désignés à la persécution. Cette jeune Samara, pour ce qu'on en sait pour l'instant, moi, je le dirais d'une formule assez simple, elle a été victime de persécution communautaire. C'est-à-dire que dans sa communauté, je ne dis pas l'ensemble de la communauté, on s'entend, mais des gens qui se prennent pour les gardiens de la communauté, on dit « tu viens de trahir ». Tu viens de trahir, donc on va te sanctionner. On va te sanctionner de quelle manière? Ben, en allant jusqu'au cou. Alors, la formule est forte. À l'européenne, ce qui fait référence à la culture française. Et quel est un des marqueurs de cela? Eh bien, c'est la liberté féminine. C'est important, ça. On oublie à quel point la question de l'émancipation féminine, ce n'est pas une question, je dirais, théoriquement lointaine. C'est une question concrète au jour le jour. Le droit de se vêtir comme on le souhaite, le droit de désirer, le droit d'être désiré, le droit d'entrer en relation avec des gens, le droit de faire ce qu'on veut de ses cheveux, le droit de se présenter à l'école dans la tenue que l'on souhaite sans avoir immédiatement des gens sur le mode du rappel à l'ordre communautariste. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a des injonctions vestimentaires. Injonction vestimentaire, donc le voile, le port du voile. Donc ça, on comprend. On nous dit souvent le voile, c'est l'expression d'une préférence spirituelle. Certaines le portent, d'autres ne le portent pas. Ben, on vient de voir, avec l'histoire de Samara, qui est une histoire terrible, que ce n'est pas vrai que certaines le portent, d'autres ne le portent pas. Quand la pression sociale, quand la pression culturelle, quand la pression démographique est telle dans un quartier, eh bien, si vous voulez ne pas porter le voile, vous ne pouvez pas ne pas porter le voile. Vous êtes obligé de porter le voile, sans quoi vous allez connaître des sanctions communautaristes. Et là, je reviens sur cette idée de sanction. Qu'est-ce qu'une notion de sanction communautariste? En sociologie, c'est une idée qu'on retrouve. Si vous avez un groupe, et là, le groupe ne tolère pas qu'on s'en éloigne, surtout si ce groupe, avec ceux qui prétendent le garder, qui prétendent l'incarner, fixe des repères qui permettent de savoir qui en est et qui n'en est pas. En France, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'une jeune femme, en certains quartiers, qui décide de retirer le voile, est considérée, dès lors, comme quelqu'un qui renie sa communauté. Et on entend bien, à l'européenne, pas à la chrétienne, parce que c'est important de le dire, même si les deux termes, pour certains, pourraient s'interpénétrer, elle dit à l'européenne. Donc ce qu'on condamne, celle qui l'attaque parce qu'elle s'habille ici, c'est parce qu'elle adhère à une civilisation et une culture. Pas seulement une question de religion ici, de civilisation et de culture. Elle a voulu indiquer qu'elle appartenait au monde européen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille à l'européenne. C'est beaucoup plus fort que je ne sais quelle valeur lointaine désincarnée auxquelles on devrait se convertir. J'ajoute qu'on la traitait, bon, il y a le couffard et on le termina, il y a aussi soupçon de, sur le mode de pute et salope, pardonnez les termes, qui circulaient. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est important. C'est autrement dit, on associe la liberté à l'européenne à une liberté sexuelle que l'on traite immédiatement comme une liberté de dégénérer. Si tu décides de vivre à l'européenne, c'est qu'en tant que telle, t'es une pute. Si t'es à l'européenne, tu t'inscris dans le registre de la disponibilité sexuelle et dès lors, on est en droit de te sanctionner parce que tu ne respectes même pas les usages du groupe qui considèrent que les femmes doivent ainsi se tenir et ne pas se comporter autrement. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers cela? Autrement dit, l'Europe, c'est la civilisation de la mauvaise vie. L'Europe, c'est s'habiller à l'européenne, c'est un mode dégradé. Hein, s'habiller à la pas européenne, ça serait mieux. J'aimerais faire remarquer aux jeunes qui lui reprochaient cela qu'on est en Europe ici. Et si les gens ne veulent pas vivre avec des gens qui s'habillent à l'européenne, les moyens de transport en notre époque sont très nombreux pour être capables de fuir cette civilisation atroce où en Europe, on s'habille en européen. Il y a moyen de s'enfuir si on trouve ça absolument insupportable. Ah, une femme qui en cheveux. Ah, une femme qui se monte les bras. Ah là là, une femme qui ose d'une manière ou l'autre sourire à un autre homme. Je trouve cela intolérable. Mais cher ami, il n'y a pas de mur de Berlin. Hein. Vous êtes tout à fait en droit de trouver un pays désirable et formidable. Par exemple, l'Arabie Saoudite, où vous pourrez vivre véritablement sous le signe du droit des femmes tel que vous l'entendez. J'annonce la prochaine chronique. Une autre chose qui me semble importante...
Certains sont partis et sont revenus. Je ferme la parenthèse.
Très juste, très juste. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, la sanction, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un crime d'honneur. Alors, c'est un crime d'honneur qui n'a pas été jusqu'au bout de lui-même. Elle n'a pas été tuée, Dieu merci. Elle n'a pas été assassinée, mais les rouées de coups, en fait, ce qu'elle a subi, elle aurait pu. Ça aurait pu mal finir. Hein. Parce que ça n'a pas mal fini, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu mal finir. Et je me permets de faire un lien avec des événements nombreux qui se passent dans nos pays et qui s'inscrivent dans cette logique du crime d'honneur. Qu'est-ce que c'est le crime d'honneur? C'est ton comportement déshonore notre communauté et dès lors, tu dois payer. Je note, soit dit en passant, que la mère elle-même dit hein, « Nous, on est de la communauté, on est musulmans, on est de ça. » Et elle a l'impression d'être rejetée. C'est important, ça. Donc, quand je dis crime d'honneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que quelqu'un nous déshonore et dès lors, on doit en finir avec cette personne parce qu'elle est finalement le mauvais étendard, c'est un mauvais ambassadeur pour les nôtres. On l'a vu en Suède tout récemment, c'était beaucoup plus loin. Une jeune femme est morte parce que, bon, il y avait un sommelier de mémoire qui était en Suède qui est en couple, je crois, à ce moment-là, avec une jeune Thaï. Et la mère dit, je crois que c'est la mère, « Je ne veux pas que tu sois en couple avec une blanche. » Bon, je devine qu'il n'y a pas d'amalgame, mais quoi qu'il en soit. Et la jeune fille y est passée. Crime d'honneur. Donc ça existe, le crime d'honneur. On en a vu au Canada, on en a vu en Grande-Bretagne, on en a vu un peu partout, cette sanction. Et j'ajoute aussi, là, c'est un autre registre, mais je pense que je dois faire le lien aussi entre Occident et disponibilité sexuelle, Occident et désir malsain, tenue à l'européenne et droit de s'approprier le corps des femmes, on le voit notamment dans des histoires récentes, encore une fois, Cologne, combien de fois doit-on l'évoquer? Elles se promenaient librement dans la rue, elles étaient donc disponibles pour qui les voulait. Telford, en Grande-Bretagne, cette mafia qui s'était emparée de jeunes femmes blanches, entre guillemets, de la classe ouvrière, qui étaient offertes aux gens d'une certaine communauté qui voulaient les consommer à la manière de trophées de guerre et de trophées de chasse. Donc, qu'est-ce qu'on voit vers ça? Sexualité, culture, liberté, féminité, tous ces éléments mis ensemble, ben, ce sont les ingrédients, j'appellerais ça, du choc de civilisation au quotidien.
Et toujours les femmes, premières victimes. Oui. Le véritable enjeu, Mathieu Bocoté, ne se trouve-t-il pas ici, dans l'incapacité de l'établissement scolaire de protéger la jeune Samara?
Vous avez absolument raison, et c'est la part tragique. La mère, voyez ce qui s'en venait. La mère appelait à l'aide l'établissement scolaire. Elle disait, ça va mal se passer pour elle. Elle savait. Imaginez le sentiment d'un parent qui sait ce qui va arriver à son fils, ou à sa fille, qui cherche à en prendre les moyens pour que ça n'arrive pas, et ça arrive néanmoins. C'est atroce. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de sociologie là-dessus. C'est l'école a fait ce qu'elle pouvait, entre guillemets, mais elle ne pouvait pas tant que ça, parce que l'école, l'établissement, c'est un établissement scolaire implanté dans un territoire culturellement étranger. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire ce qui nous est décrit, c'est que manifestement, les règles de l'école républicaine ne s'appliquent pas à la sortie de l'établissement. À la sortie de l'établissement, c'est la règle communautariste dont j'ai parlé qui s'applique. Et dès lors, la capacité qu'a le système républicain à imposer ses règles à l'extérieur des classes et du périmètre de l'école est assez limité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur ce territoire, ce n'est plus la culture française qui domine. Sur ce territoire, ce ne sont plus les mœurs françaises qui dominent. Et sur ce territoire, une autorité nouvelle est apparue. Une autorité, je l'ai dit, communautariste, politique sans être publique, et qui se donne le droit de sanctionner ceux qui ne la respectent pas. Alors, vous aurez beau créer ensuite, j'entendais Mme Bilouet, qui naturellement est touchée comme nous tous par ça, on veut lancer des brigades d'intervention scolaire, je ne me rappelle pas comment on les nomme.
Mission Flash.
Oui, Mission Flash, brigade d'intervention scolaire, bon, puis on peut inventer tous les termes qu'ils souhaitent. Sur le fond des choses, le parti brigadiste ne peut pas faire grand-chose devant un changement culturel et démographique qui transforme complètement une situation. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté, quelque peu, on a l'impression d'être devant une force immense qui nous écrase. Pourquoi? Mais parce que cette école, c'est un territoire assiégé. En fait, c'est une citadelle assiégée dans un territoire où, manifestement, les codes qu'elle porterait, les valeurs qu'elle porterait, qu'elle porte, ne sont plus les bienvenues. Et je me permets d'insister, vous savez, là, il y a eu la séquence Crépole, où on nous disait, il n'y a pas de racisme anti-blanc là-dedans, même si les termes avaient été utilisés. Racisme anti-blanc. Ah, pas racisme anti-blanc, mais on veut planter du blanc. Là, il y a tout le système médiatique qui nous a expliqué que ça ne voulait rien dire. Là, aujourd'hui, les termes qui ont été utilisés, c'est couffard. Comprenez, mécréant. Donc, c'est quand même, le terme est fort. L'agression est connotée culturellement. Eh bien, je note que dans certains médias, de bonne réputation, de bonne renommée, toute la dimension culturelle de ça, donc couffard, donc sentiment de punition communautaire pour celle qui est une mauvaise musulmane, tout ça n'est pas mentionné. Probablement parce qu'il manquait d'espace dans leur article pour le mentionner, ou peut-être parce que ça les embarrasse un peu dans leur récit de la diversité heureuse. Donc encore, j'aimerais savoir, quand on raconte de tels événements, sans noter l'élément El Sabial européenne, donc on doit la faire payer, couffard, donc à travers ça l'idée qu'on doit sanctionner quelqu'un qui a décidé de rejoindre son pays d'accueil, eh bien, est-ce que ça, on fabrique une fake news quand on décide de cacher la réalité? Je pose la question sans y répondre.
C'est quelle langue, couffard?
Ah, ça, je ne saurais dire.
Le verlan, non? C'est l'inverse, non?
Non, mais c'est. En plus, je trouve qu'on en parle comme si c'est une évidence, mais.
Le terme est rentré dans les mœurs, on ne traque pas l'origine. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Marc nous dira la pause.
Très intéressant de regarder aussi ce qui est fait au niveau médiatique. Et cette histoire, Mathieu, nous le disions, ne ressemble-t-elle pas à tant d'autres histoires qui se déroulent aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées en France? Et comment ne pas être découragé devant ces agressions à répétition?
Alors, ça ressemble effectivement, mais comme je dis là, le témoignage de la mère nous révèle la dimension souvent occultée du harcèlement scolaire. Mmh. Le harcèlement scolaire, qu'on nomme de manière neutre comme l'ensauvagement de la France, toute une série de termes neutres qui sont censés nous dire quelque chose sans nous le dire, derrière le harcèlement scolaire, là, on a véritablement le drame qui est nommé dans sa violence.
Dans ce cas-là.
Oui, dans ce cas-là. Je ne dis pas que c'est comme ça partout. Mmh. Je dis que nous sommes en droit de croire que ce cas n'est pas si exceptionnel. Je ne crois pas être dans l'audace. Comme dit, c'est une hypothèse que je me permets de privilégier, comme on dirait pour reprendre le langage de la semaine. Cela dit, que faire devant des gens qui sont prêts à faire usage de la force? C'est quand même ça la question. Vous avez le lycée, vous avez les autorités qui disent non, c'est pas bien, il faut pas tabasser les gens. Mais là, vous avez des gens qui sont prêts à tabasser des créatures ensauvagées, qui sont prêtes à frapper, qui sont prêtes à blesser, qui sont prêtes à aller jusqu'aux portes de la mort pour sanctionner quelqu'un. Que faire devant ça? Bien, on se sent dépossédé, on se sent faible devant ça. Il faut quand même nommer les choses telles quelles. Et encore une fois, ce récit n'est pas autorisé médiatiquement parce qu'il nous obligerait à jeter un regard nouveau sur ce que veut dire la détresse scolaire aujourd'hui. Et je devine que si on en parle avec, je l'ai dit, avec beaucoup de nuances et
de prudence.
La prudence, ça j'en suis. Moi je crois à la prudence. Mais quand on décide d'occulter une partie du réel, ça c'est autre chose. Or, je constate que ceux qui ont refusé de nommer la dimension culturelle ont décidé d'occulter une partie du réel, probablement parce que ça aurait fait, comme on dit, le jeu de l'extrême droite, entre guillemets. Samara n'aurait pas dû se faire agresser dans de telles circonstances et avec de tels mots. En se faisant agresser, elle faisait le jeu de l'extrême droite. Et ça c'est vraiment impardonnable pour le système.
Donc, si j'ai bien compris, je m'adresse à vous, on va faire un petit tour de table sur la question. Charlotte Dornelas, il y a des médias qui ont parlé de cette agression en enlevant, comme le disait Mathieu Bocoté, toute la dimension couffardesque, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire en enlevant toute la dimension culturelle, en enlevant toute la dimension El Sabial européenne. C'est-à-dire que si ces news européens n'en parlent pas, personne n'en parle?
Bah, c'est évidemment une question qu'on peut se poser, en tout cas vu le déroulé et la chronologie de la manière dont ça a été raconter petit à petit. Donc, maintenant, en effet, c'est dans le débat. Certains font le service minimum, on va dire, sur ce sujet-là. Et en général, ce qui est invoqué dans ces cas-là, c'est la prudence et la nécessaire vérification de ce qui s'est passé. Je note qu'il y a d'autres affaires, notamment judiciaires, sur lesquelles ni la prudence ni la nuance ne sont jamais convoquées. Donc on comprend quand c'est systématiquement sur le même sujet que la nuance est évoquée pour s'empêcher d'en parler, qu'a priori c'est plus une question de gêne idéologique que de nuance, malheureusement.
Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a plus les ressources pour mobiliser la force contre les violents. Donc il y a un processus de décivilisation, de renoncement à nous-mêmes d'un côté, mais de l'autre, c'est pas le monde traditionnel musulman qu'on a en face de nous, ce n'est pas vrai. Moi, je crois pas à cette théorie du choc des civilisations. Je pense qu'en face de nous, il y a une autre mondialisation. Il y a une espèce de McDonald's de l'islam radical. C'est une mondialisation, d'ailleurs, qui est partie d'Arabie Saoudite, avec un standard mondial qui nie les nations, qui nie les frontières, qui nie la culture. C'est pas un retour du traditionnel. C'est vraiment une sorte de contre-mondialisation agressive.
Moi, ce que je comprends pas, et Marc, pour vous faire réagir, l'État, la France, la force de la France devrait protéger.
Mais parce que la France a renoncé par
elle-même.
Elle a renoncé à la laïcité. La laïcité, voilà l'exemple même qui devait nous protéger et protéger les femmes. N'oublions pas que ce sont les femmes qui se sont battues pour avoir le droit à une sorte de légèreté. Aussi bien sur les plages, au début du XXe siècle, elles étaient cachées, encapuchonnées, on les conduisait jusqu'au bord des vagues, dans des petites cabanes, et on repartait avec. Fallait surtout pas qu'on aperçoive le moindre morceau de chair. Elles se sont battues, elles ont voulu la mini-jupe, c'est Brigitte Bardot, c'est l'icône Brigitte Bardot de cette liberté. Et comment aujourd'hui on pourrait obtenir qu'il y ait ce droit à être vrai, ce droit à vivre notre culture, en appliquant la laïcité? Vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, la police des vêtements, eh bien la police des vêtements, c'est vous obliger à porter quelque chose. Et alors les Mélenchon et compagnie vous disent, arrêtons, il n'y aura pas de police des vêtements en interdisant de porter le voile. Eh bien si, il faut interdire tout ça.
Je sais que vous pouvez parler pendant une heure sur la laïcité.
Oui, bah oui, parce que...
Avant de vous laisser à la parole, je sais que vous avez envie de réagir, je rappelle juste pour rebondir sur ce qu'il disait, que c'est étonnant, avant, j'aimais bien voir les petites couvertures de Voici, etc., avec Claire Chazal, les seins nus, les présentatrices, les seins nus. Non mais, je rigole un peu.
Mais non,
ça n'existe plus.
Bah oui.
C'est intéressant quand même.
Et bah voilà.
De se poser la question de ce qui se passe.
Bah la pudeur des uns devient la pudeur des autres. Or, les autres là-dedans, c'est nous.
En miroir.
Je me permets. Mais je me permets simplement parce qu'on m'a fait la précision. Donc, on savait que Koufar voulait dire mécréant, mais c'est en arabe simplement.
Oui,
mais... Donc, pour la précision, je ne voulais pas me prononcer sans avoir la certitude, mais c'était cette petite précision nécessaire.
On aime votre précision. Je précise justement que Emmanuel Macron a réagi sur l'affaire Samara. Il a dit sur ces sujets, je n'ai jamais fait preuve de quelque faiblesse que ce soit. Il a ajouté qu'un travail de la justice est en cours et qu'il attend le retour plein et entier des travaux de la justice, de la préfecture et du rectorat. Merci en tout cas pour votre regard. Dans un instant, un petit lien quand même, parce qu'on ira avec l'ONU, avec l'Arabie Saoudite, la commission des femmes présidée par l'Arabie Saoudite. On aimerait bien décrypter tout ça. Mon cher ami, parlons politique. Les rumeurs vont bon train. J'ai discuté avec certains députés. Ça bruisse dans les couloirs. Tout le monde craint, parfois espère, parfois s'interroge, la dissolution avec une carte en main, celle des LR. Alors ce sont des rumeurs qui vont bon train. Les LR sont-ils à la manœuvre d'une éventuelle dissolution à propos du gouvernement ?
Alors ça a commencé déjà quelques temps. En décembre 2023, les LR avaient commandé un sondage secret, enfin pas si secret parce qu'il avait filtré dans la presse, où ils demandaient ce qu'il allait arriver en cas de dissolution. Donc c'est-à-dire que ça leur trottait dans la tête. Et là, tous les chapeaux à plumes de LR, si j'ose dire, vont dans le même sens. Donc il y a trop de bruit de fond pour qu'il se passe pas quelque chose. Le 27 mars, par exemple, le président des LR, Éric Ciotti, disait « l'hypothèse de la dissolution est clairement sur la table ». Deux jours plus tard, Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat, disait « la question de faire tomber le gouvernement se posera si le gouvernement, en matière budgétaire, peut pas redresser la barre ». Ce matin même, le chef de file LR pour les Européennes, François-Xavier Bellamy, disait, sur une chaîne concurrente, « la motion de censure, c'est une arme entre nos mains ». Donc la question, c'est de savoir si c'est finalement du bluff ou pas. Parce que on peut dire que jusqu'à présent, LR... peut-être dans leur culture de gouvernement, considéraient que l'hypothèse de la censure du gouvernement, c'était aller dans le sens du chaos voulu par LFI. Donc ils n'en voulaient pas, finalement. Et en réalité, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022? En fait, il y a quasiment une cohabitation, on pourrait dire implicite, une cohabitation inavouée, une cohabitation subie, évidemment. Le budget, par exemple, pourquoi il est passé? Parce que LR s'est abstenu et n'a pas voulu s'opposer au passage de ce budget. Pourquoi la réforme des retraites ou la loi immigration sont passées? Parce que LR a voté pour. Alors peut-être qu'ils ont avalé trop de couleuvres.
Mais LR peut-il faire basculer le gouvernement? On en parle tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Dans un instant, on parlera de l'Arabie Saoudite et de cette commission pour les droits des femmes résidée donc à l'ONU par l'Arabie Saoudite. On parlera.
Aller à l'ONU.
À l'ONU. Qu'est-ce que j'ai dit?
Ah non, oui. Aller à l'ONU.
On parlera avec vous de Quentin Bataillon.
Merci.
Wow. Vous allez trop vite pour nous. Hein. Arrêtez, on va vous donner une deux chevaux. Hein. On parlera de Quentin Bataillon avec vous qui assume son passage. Vous m'écoutez un peu?
Ben oui.
Vous êtes dissipé, hein. Je vais vous prendre les clés de votre voiture. Quentin Bataillon, donc, qui assume son passage à TPMP, qui dit regrette, mais qui trouve quand même Yann Barthès arrogant. On va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Avec vous, Charlotte, on parlera de ce maire, Xavier Melki, à Franconville. Franconville qui se bat pour déloger les délinquants des HLM, alors que beaucoup espèrent une place dans les HLM et il n'y a plus beaucoup de place. On était avec vous. Est-ce que LR peut renverser le gouvernement?
En tout cas, ils avaient vraiment avalé beaucoup de couleuvres. C'est vrai, si on fait le compte de tous les débauchages, par exemple, depuis 2017, ils n'ont jamais arrêté. Ça continue encore avec Rachida Dati, Madame Vautrin, etc. Si on se rappelle aussi des circonstances, j'ai dit qu'ils avaient, c'est une sorte de cohabitation implicite, mais l'adoption de la loi immigration, c'était quand même une séquence assez étonnante. C'est-à-dire que la loi a été adoptée parce qu'il y a eu des concessions faites au LR. Et tout de suite après, le président de la République est allé donner la loi sur un plateau au Conseil d'État pour qu'il enlève toutes les concessions faites à LR. Donc que les LR aient quelque envie de se venger, on peut le comprendre. Et là, pour eux, en fait, finalement, il y a des lignes rouges qui ont été franchies. D'abord, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est une goutte d'eau à 30 milliards. Hein. C'est ce qu'ils considèrent pour eux vraiment comme une ligne rouge, c'est-à-dire un budget insincère, une projection budgétaire insincère, une projection de croissance insincère. Et maintenant, ils entendent parler de nouveaux impôts. Vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale qui parle de, voilà, essaye de chercher des solutions fiscales, le Premier ministre, taxer les rentes. Donc là, pour LR, c'est trop. Non seulement un budget insincère, on ne les suit pas dans leur réduction de budget, et en plus on concocte des nouveaux impôts, ça ne va pas. Donc là, ça attaque à la fois leurs convictions, ça attaque leur électorat. Grosso modo, s'ils ne réagissent pas, ils sont morts.
Alors, mais c'est peut-être aussi un moyen de mettre une certaine pression, c'est peut-être du bluff finalement, non ?
C'est possible, et effectivement, il peut s'agir d'un bluff en marquant des lignes rouges, par exemple sur les impôts, par exemple sur l'école privée, on en a parlé, ça aussi c'est un thème qui arrive. Mais il y a un visiteur du soir c'est les gens en référence à ce qui se passait du temps de François Mitterrand qui rendent visite la nuit tombée discrètement au président de la République pour lui donner des conseils, pour prodiguer des conseils. Donc un de ces visiteurs du soir parle au Figaro. Et donc je cite ce qu'il dit, on ne sait pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui a échangé avec le président de la République. Il dit « Si j'étais le groupe LR, je censurerais le gouvernement en mai, fais ce qu'il te plaît, à un mois du scrutin. Ce serait un moyen pour eux de faire dérailler un train qui les emmène à la mort. Ce train, c'est le train électoral. » Et la mort, ça serait le seuil fatidique des 5% aux européennes qui ne seraient pas franchis par LR. C'est peu probable, mais ce n'est pas complètement impossible. En tout cas, il y a une envie chez LR de reprendre leur destin en main, d'arrêter de subir. Quand vous êtes dans la boxe, dans un coin du ring, les coups pleuvent, il faut sortir, il faut reprendre l'initiative, même si c'est risqué. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, il ne suffit pas que LR le décide pour qu'autant la censure puisse passer. Il faut un dixième d'abord des députés qui signent et puis il faut une majorité absolue. La dernière censure, celle de Liotte, a failli passer, mais à 9 voix près, elle n'est pas passée. Mais enfin là, on peut considérer que si LR s'y met, pratiquement personne dans l'opposition, surtout aussi proche du scrutin européen, personne dans l'opposition pourra se permettre d'être dans l'opposition sans voter la censure. En réalité, personne, qu'ils y aient les uns ou les autres, plus ou moins intérêt, parce qu'en réalité, après la censure, si derrière il y a dissolution, certains pourraient perdre des plumes, bien évidemment. Alors, mais je pense que vous avez raison, Christine, il peut s'agir d'un bluff, d'une menace simplement, et peut-être même d'un bluff dans le bluff, d'un bluff au carré.
Oula.
Pourquoi ? Bon, c'est pas trop compliqué. Ben, parce qu'en fait, la censure, ça n'implique pas automatiquement la dissolution. Et les LR le savent. Donc ils peuvent avoir envie de taper un grand coup sur la tête du président de la République pour riposter, sans pour autant que ça les amène à avoir beaucoup moins de députés.
Alors, c'est-à-dire, donc pression, motion de censure, mais pas forcément dissolution, c'est-à-dire
ben, en fait, dans le jeu constitutionnel... C'est le président de la République qui est l'arbitre, c'est lui qui va décider. Imaginons que la censure passe, ça ne soit pas du bluff. Moi, je pense qu'ils sont prêts à courir le risque, les LR, pour le coup. Mais, pour autant, s'il y a censure, le président de la République peut décider de dissoudre ou de ne pas dissoudre. La dissolution, c'est l'une des prérogatives du président de la République. Et s'il ne dissout pas, il est quand même obligé d'acter la démission du gouvernement, parce que le gouvernement n'a plus la confiance. Sachant que le gouvernement n'est pas obligé de demander la confiance. Mais ça a quand même cet effet-là. Alors il y a deux hypothèses à examiner rapidement. Il y a première hypothèse, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement, enfin, s'il y a une censure, d'accord, que la censure passe, et qu'en même temps, le président de la République décide de ne pas dissoudre. Ben, il sera quand même obligé de changer le gouvernement. Merci ou en même temps, il aura le choix entre deux solutions. Soit un coup de barre à gauche, j'y crois moyen, ça paraît assez peu probable, en nommant par exemple un François Bayrou, un Richard Ferrand, un Manuel Valls, enfin c'est pas les candidats qui manquent bien sûr, pour avoir un gouvernement dans lequel le PS détaché de LFI viendrait, un gouvernement très écologiste, un gouvernement qui trouverait des solutions à la crise des finances publiques en créant de nouvelles taxes. On a une créativité assez forte en France dans ce domaine. C'est pas complètement impossible. Et un gouvernement qui serait d'ailleurs très, très pro-ukrainien et très pro-européen. Deuxième hypothèse, soit coup de barre à droite. Soit coup de barre à droite, et dans ce cas, c'est la recommandation de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron qui serait enfin mise en œuvre, c'est-à-dire une alliance en bonne et due forme avec LR. Et le président de la République pourrait dire, écoutez, vous savez quoi, les LR, vous voulez absolument redresser les finances publiques, bah écoutez, allez-y vous-même. Donc il pourrait nommer un monsieur Ciotti, un David Lisnard en disant, à vous de jouer maintenant. Et beaucoup de gens pourraient participer à ce jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'espoir, évidemment, de rebondir pour 2027. Que ce soit les gens de l'entourage du président de la République ou que ce soit des LR qui seraient, dans ce cas, aux affaires. Mais évidemment, il peut y avoir aussi dissolution. Et en cas de dissolution, alors il y a eu ce sondage dont je vous parlais en décembre 2023. Qu'est-ce qui donne ce sondage ? Sachant qu'on est maintenant... au mois d'avril. Donc, entre décembre et avril, les tendances, les trends se sont renforcés. Mais déjà en décembre, il y avait le RN qui est aujourd'hui à 88 députés, c'est un qui est parti, il passerait à 278 sièges en cas de dissolution. C'est un sondage, évidemment. Ça serait assez proche des 289, la majorité absolue. La majorité présidentielle, bah, c'est la fonte des glaces. Là, hein. 246, ils n'avaient pas de majorité aujourd'hui, mais ils ont une majorité relative. Néanmoins, 246, il passerait à 135. Les LR perdraient des plumes, comme je vous ai dit, mais pas tout, de 62 à 53, avec l'espoir de se refaire plus tard. Et la NUPES, ça serait la grande débandade de 150 à 68. Ce n'est évidemment qu'un sondage. Mais pourquoi cette hypothèse peut intéresser jusqu'au président de la République ? Eh bien, ce ne serait pas lui qui finalement accueillerait un candidat ou une candidate du Front National ou du Rassemblement National, pardon, ma langue a fourché, dans l'esprit d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est probablement toujours le Front National sur le perron de l'Élysée. C'est en fait l'idée d'user au pouvoir le Rassemblement National, qui est très haut, qui ne fait que caracoler, parce qu'il a une virginité politique, il n'a pas encore gouverné. Donc les Français peuvent lui faire crédit. Et là, en essayant d'user finalement la meilleure carte du Rassemblement National, c'est-à-dire Jordan Bardella à Matignon, eh bien, ce serait un moyen de les éloigner du pouvoir.
Jordan Bardella à Matignon. Bon, alors, dernière question.
Ah ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est déjà Marine
oui.
Le Pen.
Vous nous disiez sur ce plateau avant le second tour qu'Emmanuel Macron serait élu mais qu'il n'aurait pas de majorité à l'Assemblée et donc que la fonction présidentielle serait affaiblie et que le pays serait partagé en trois blocs hostiles et qui risquaient d'être donc ingouvernables. Au vu des risques de dissolution et des sondages pour les européennes, est-ce que vous avez changé d'avis en dernier mot rapidement ?
Bon, il y a deux constats. Donc, l'affaiblissement du président de la République, non, j'ai pas changé d'avis. Je pense que là, c'est non seulement Emmanuel Macron, son pouvoir, parce qu'il peut pas se représenter, ça c'est le jeu des institutions, mais surtout parce qu'il risque d'être percuté soit par les européennes, soit encore pire par des législatives pour lui. Et donc là, pour le coup, voilà, on dit que c'est le seul président qui a été réélu sous la 5e sans cohabitation, c'est vrai, mais là, si ça s'arrête demain, et ça peut s'arrêter demain, il n'aura fait finalement qu'un septennat. Hein. Il n'aura même pas fait ses deux quinquennats au sens du pouvoir plein. Et la deuxième chose qui me semblait claire, c'est-à-dire que le président n'a pas de majorité, n'aura pas eu de majorité, c'est vrai, mais d'un autre côté, en face de lui, personne ne peut s'entendre pour gouverner à sa place. C'était ça l'ingouvernabilité. Moi, je pense qu'on est un peu, je dis bien, en train de sortir de cette séquence. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a le reflux de LFI, qui est quand même assez net, mesuré par tous les sondages, avec un éclatement de la NUPES à la clé. Deuxièmement, parce que le processus de liquéfaction, de fragilisation de LR n'est pas complètement terminé. Le problème de LR, c'est qu'ils n'ont pas fait le deuil d'être un parti de gouvernement. Et donc, comme ils ne renoncent pas à ça, ils sont comme l'âne de Buridan, ils ne peuvent pas choisir entre une alliance avec le RN ou une alliance avec Emmanuel Macron. Tant qu'ils n'ont pas clarifié ça, leur liquéfaction va continuer. Et enfin, à l'intérieur du RN, ça, ce qui est fascinant, c'est que ce qu'avait prévu, ce que voulait faire intelligemment Éric Zemmour, c'est-à-dire faire un pont entre LR et le RN, c'est en train de se passer, mais à l'intérieur du RN. C'est Jordan Bardella qui est en train de faire ça en piquant des électeurs à la fois chez Reconquête et à la fois chez LR. Et enfin, et pour terminer, en plus de ça, en plus, il y a un autre en même temps, c'est que Marine Le Pen a, d'une certaine façon, depuis longtemps, réinventé un peu le Parti communiste avec un solide bloc sociologique des employés, disons, et des ouvriers, enfin, ce qui reste des ouvriers.
On va suivre tout ça, on va suivre cette motion de censure éventuelle. On ne sait pas encore quand elle pourrait être déposée, mais on suivra effectivement peut-être dans les jours qui viennent à suivre. On va écouter Quentin Bataillon, le désormais, pour introduire votre chronique, mon cher Marc, j'ai gardé les clés de votre voiture, je vous signale, vous ne pourrez pas aller trop vite. Quentin Bataillon, le désormais célèbre président de la commission TNT, pour les chaînes TNT, qui était, je le rappelle, donc chez Cyril Hanouna, TPMP, qui a été critiqué, on a même appelé à sa démission parce qu'il a été chez Cyril Hanouna sur C8. Écoutons ses propos aujourd'hui sur France Info.
C'était pas mon rôle de le faire là-bas, c'était une maladresse et je le regrette. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le sens de la commission d'enquête, ce n'est pas d'ailleurs le sens aussi de ma présence sur ce plateau. Ensuite, sur le sujet de la présence sur le plateau, je l'assume. Est-ce que j'ai vraiment des leçons d'impartialité, au vu de ce qu'on a vécu pendant les auditions, à recevoir du rapporteur ? Est-ce que j'ai des leçons de déontologie à recevoir de députés qui émettent des pétitions pour influencer la décision de l'ARCOM, autorité indépendante, sur deux chaînes spécifiquement ? Je pense pas.
Réaction, Marc Menon.
C'est extraordinaire, parce que c'est un tapage. On a l'impression que cet homme s'est conduit de façon presque, non pas belliqueuse, mais il menaçait les institutions de la République. C'est-à-dire que vous avez la présidente de l'Assemblée qui dit « Attention, plus de réserve, de discernement dans le débat public, moins de blabla, donc... » Et encore moins chez Hanouna. Alors déjà, elle se contredit là, parce que si on ne doit être plus modéré et dans le débat public, il faut pas donner de nom, puisque c'est ce qu'elle dit. Et elle dit, faut pas aller chez Hanouna. Alors, premier truc. Après, vous avez une personne essentielle dans le débat public, c'est Prisca Thévenot.
Prisca
Thévenot, parce que elle, sa parole, elle compte. C'est une parole toujours très bien travaillée. Une parole qui a été maturée, une parole où il n'y a jamais la moindre faille. N'oubliez pas, elle nous a annoncé ce week-end, nous avons appris grâce à elle, qu'on avait déjoué, dimanche de Pâques, on avait déjoué un attentat. C'est extraordinaire. Alors après, c'était peut-être un mois avant que ça s'était passé. Mais n'en reste pas moins qu'on avait un jour déjoué un attentat. C'est dire l'importance de sa parole. Alors qu'a-t-elle dit, elle ? Aucun responsable politique n'a de jugement à porter sur un journaliste ou le travail d'un journaliste, encore moins de recevoir un cadeau d'un journaliste. Ah, moi, je n'avais pas vu Hanouna. J'étais dans mon auto. C'est pour ça que vous m'avez gardé les clés maintenant. Et alors, je suis allé voir le replay et j'ai vu le cadeau. C'est terrible. Ah bah oui, parce que notre ami Seguela, il doit prendre des notes. Là. Quand vous voulez faire un cadeau, acheter quelqu'un, le corrompre, c'est pas les bijoux, c'est pas la Rolex. Il suffit d'avoir un t-shirt et sur le t-shirt, vous mettez « c'est l'heure ». Ah, avec ça, vous pouvez vous la balader tout. Et ça veut dire quoi, c'est l'heure ?
C'est l'heure
parce que Hanouna, quand il était devant la commission, à un moment donné, il est drôle, Hanouna, bon, moi, il ne me fait pas toujours rire, mais enfin bon, en l'occurrence, il dit « écoutez, ça, c'est à 16h30 que ça se termine, et à 16h30, j'ai goûté. Alors là, c'est donc à 16h30, j'ai goûté. Voilà le cadeau, qui n'est qu'une pitrerie. Ça devient une affaire d'État. C'est pire que ce qui avait été reproché à Giscard avec les bijoux de Bocassa. Vous vous rendez compte la stupidité où nous sommes ?»
Alors que ce n'est pas l'émission qui offre des cadeaux à ses invités.
Non, mais Alors après, je suis...
Non, mais c'est vrai, non ?
Et alors après, je suis allé voir comment réagissait M. Barthès. Alors lui, déjà, là, c'était rassurant. Il n'avait pas les feuilles, mais il avait l'écouteur. Alors, il écrit bien parce qu'il commence... On commence par le début, et pour le début, on va commencer. Non, ce sont des choses, il faut les écrire, ça, parce que sinon, si vous n'avez pas l'oreillette, vous êtes paumé. Hein. Bon, bref. Et alors, que dit-il ? Il dit, eh bien, nous allons voir la disparition de, l'assistance politique, et ça va être très très court, le fait de pouvoir avoir une parole politique constante. Alors, il sort un tweet de M. Bataillon du 16 janvier 2023. Et voilà. Et que dit M. Bataillon ? Il dit « La honte, Cyril Hanouna, c'est l'imposture TMP alliant démagogie et fausse information. » Alors moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il dit « La constante ». Alors il conclut après en disant « Ça, c'est la constance, la neutralité, la réserve, la relativité et l'indépendance. » Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, M. Bataillon a attaqué, ridiculisé Hanouna. Et là, il est venu dans son émission, ce qui prouve qu'il n'est pas dans une constante. Il se prête à un jeu qu'il dit, lui, être celui de la pédagogie. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'en étant président de la commission, son rôle n'est pas là. D'abord, n'oublions pas que ce n'était pas en catimini, c'était public. Tout à chacun a pu assister à tout ce qui s'est déroulé. Mais non, mais, attendez, donc, il n'avait rien à révéler.
Oui.
Il n'y avait pas le petit truc qui était caché. Tout le monde a pu juger. Et maintenant, en plus, son rôle à lui, il est fini. Son rôle, c'était d'orchestrer les prises de parole, mais c'est le rapporteur, le gars des filles, qui est lui un homme de grande
partie. Aurélien Saint-Toul.
Oh là, il ne faut pas oublier son nom. Hein. Parce que si un jour on a des problèmes d'autorité, il faudra le faire venir. Non, mais avec des gens comme ça, vous êtes certain que la loi allait respecter. Non,
mais je disais en titre, il sortait, je vous interromps, pardon.
Hein, oui.
Un peu comme le grand inquisiteur de ses auditions, et on n'a pas appelé à sa démission, on appelle à la démission.
C'est ce que j'allais dire.
C'est quand même un deux poids, deux mesures.
Mais c'est extraordinaire. Alors, il fallait voir après Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, voilà. Il était là, il avait l'œil constamment rivé sur Yann Barthès. Il était dans une vindicte, avec son petit accent, mais on sentait le gars qui se retenait. Et il était fier de ses attaques. Il voulait voir comment réagissait son chef, si celui-ci constatait qu'il était vraiment percutant. Alors il a terminé en disant « Monsieur Bataillon, vous avez été nul et mauvais ». D'une certaine manière, parce qu'à un moment donné, il avait parlé de la manière, parce qu'on parlait de dignité, vous avez déshonoré l'Assemblée nationale à laquelle vous appartenez. Vous vous rendez compte ? Et Yann Barthès a annoncé à un autre moment que M. Bataillon faisait en sorte que la haine renaisse. Il était un homme qui nourrissait la haine.
Merci.
Tout ça pour avoir dit que lui, il avait été un peu arrogant.
Et Charlotte Dornelas, quel est votre regard justement sur ce deux poids, deux mesures entre cet homme, Quentin Bataillon, jeté en pâture, que tout le monde a appelé à démissionner ? Il y a un certain décalage, non ? Par rapport aux auditions qu'on a vues, on a l'impression qu'il
y a la manière dont certains ont imaginé ce qu'elle allait devenir cette audition, à savoir un tribunal dans lequel notamment les gens de CNews allaient mourir, en réalité, sur place dans le tribunal, et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc il fallait trouver un autre moyen de ressusciter l'objet premier de cette commission. Et là, ils ont sauté sur l'occasion, évidemment, en utilisant des termes. Franchement, ils peuvent critiquer l'intervention, la décision d'aller sur ce plateau et tout. Moi, j'ai pas de problème. On peut lancer tous les débats qu'ils veulent. Enfin, les termes utilisés, je veux dire, dans par ailleurs, ce qu'on reproche...
Il a alimenté la machine à haine.
Non mais c'est ça, ce sont les mêmes qui vont reprocher à CNews de parler tous les jours d'une véritable haine qui s'acharne sur certains Français, et là ils voient de la haine pure dans l'intervention d'un député sur un plateau de télévision avec un mot qui n'est pas non plus une insulte abominable. Donc on peut discuter de la pertinence du choix de ce plateau, mais l'absence de mesure me fait, à mon avis, recherche autre chose que simplement la critique de Quentin Bataillon, qui est la résurrection de cette commission qui ne s'est pas passée comme prévu, je pense.
Merci beaucoup, Charlotte Donnez, pour votre regard. Je vous fais écouter peut-être Xavier Melki, qui était sur Europe 1. On va parler ce matin, on va parler d'un maire qui se bat pour déloger les délinquants des logements sociaux. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin.
Le problème, ce n'est pas le logement social. Ce n'est pas les 90% des familles qui sont dans le logement social. C'est comment le logement social est géré et comment on attribue une fois un logement social et il faut réussir à le désattribuer. Oui. On ne va pas garder un logement à vie quand la seule source de revenus, c'est le trafic. On n'est pas de mauvais élèves, on est à 21% de logements sociaux. Oui. On est à 21%, la ville est urbanisée
c'est 25%,
sur 4... C'est 20 fois arrivé à 25%, mais la ville est urbanisée sur 4 km², il en manque 750, je ne sais pas où les mettre. Quand on est confronté à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont 5 dans un appartement parce qu'ils travaillent du matin au soir et qu'ils n'ont pas assez d'argent, et qu'on voit en face des personnes comme ça qui ne respectent rien, ouais, on peut s'interroger.
Hashtag face à l'info, si vous pensez qu'il faut déloger les délinquants des logements sociaux. Hier, Charlotte Dornelas, donc le maire de la ville de Franconville, qu'on vient de voir, a publié une histoire de vie de maire qu'il a lui-même jugée désespérante au sujet des HLM. Qu'en est-il précisément de cette histoire ?
Voilà, ce maire, je précise, d'habitude on a un débat, enfin parfois on a un débat, sur la question de l'attribution des logements sociaux aux parents de mineurs délinquants. Là, on se pose carrément la question de savoir est-ce qu'il est normal que des délinquants directement bénéficient de logements sociaux. On a passé un cran encore dans l'absurde. Hein. Je veux bien que tout le monde comprenne que ce maire parle. En effet, parfois, il y a des familles, il y a du cas par cas. Un maire, il connaît ses administrés. Il sait qu'il y a des parents qui sont absolument dépassés et qui ont besoin justement d'un coup de pouce pour se sortir malgré un de leurs enfants délinquants. Il y a aussi des parents qui ont une responsabilité, qui sont responsables de leurs enfants et qui ont une responsabilité aussi dans le parcours délinquant des enfants. Mais là, en l'occurrence, il aborde aussi la question des délinquants directement qui bénéficient d'un logement social. Alors il raconte l'histoire, ce maire. C'est une histoire banale qui commence par une voiture qui grille un feu rouge. Et la suite, des policiers municipaux prennent en chasse cette voiture, le conducteur s'arrête, il est ivre, sous l'emprise de stupéfiants, il est en train de fumer quand il est arrêté. C'est un individu bien connu des services de police, il a 25 rapports de police municipale cumulés sur l'année 2023. Voilà pour vous dire. Et le maire cite les raisons pour lesquelles il est notamment connu. Attroupement causant des nuisances, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, acte de rébellion, agression, squat. Donc c'est pas juste il a mal parlé à sa voisine. Hein. Il tente de s'enfuir, cet homme, il se débat, il blesse un policier. Il y a une dizaine d'individus qui s'approchent pour mettre un terme à l'interpellation, donc des individus du quartier en l'occurrence. Les policiers, eux, sont trois, ils appellent du renfort, la BAC intervient. La BAC intervient pour garder ces fameux individus qui tentent de faire stopper l'interpellation à distance pour que les policiers puissent l'arrêter. Il est placé en garde à vue. Morale de l'histoire, il y en a deux. Un, je cite encore le maire qui nous raconte cette histoire. Il ressort libre avec une convocation, ouvrez les guillemets, qu'il honorera peut-être. C'est un maire qui a l'habitude, hein, et quotidiennement il voit ce genre de choses. Et la deuxième chose, pendant ce temps-là, il occupe un logement social et le maire explique qu'il se tue à demander son expulsion depuis déjà longtemps. Alors l'histoire est banale, c'est le maire lui-même qui le dit, il utilise le mot désespérant pour conclure son message et mérite d'être raconté dans le détail parce que vous savez, ça fait partie de ces histoires-là. On n'y croit pas, en fait. On se dit, c'est pas possible. Et bah, là, en l'occurrence, non seulement c'est possible, le maire nous explique que c'est souvent. Et en effet, c'est désespérant pour la police municipale, pour la police nationale. Il le dit lui-même, la police municipale remplace en plus une police nationale qui ne peut pas tout faire en même temps partout sur le territoire, étant donné l'augmentation de la violence. Ça désespère les honnêtes citoyens qui n'en peuvent plus d'être les seuls à respecter toutes les règles, en fait, et de se faire attraper quand eux, ils grillent un feu rouge parce que l'amende, elle arrive à bon port. Ça désespère les voisins, évidemment. Ça désespère les gens qui ont besoin d'un logement social et qui ne l'obtiennent pas, évidemment. Ça désespère le maire. Et c'est une situation, étant donné l'actualité qu'on a aujourd'hui, qui est malheureusement beaucoup plus fréquente pour tous ces acteurs-là que les opérations Place Nette qui nous occupent beaucoup en ce moment, qui ont des avantages et des inconvénients, mais qui sont beaucoup moins la réalité quotidienne du maire et des administrés et des policiers que ce genre d'histoire.
Alors, ce maire, Il s'exprime régulièrement et ce matin, donc, sur Europe 1, je le disais, il parle de son travail acharné pour distribuer équitablement les logements sociaux, c'est-à-dire aussi déloger donc ceux qui ne le méritent pas. Comment est-ce qu'il s'y prend concrètement ?
Alors là encore, il faut s'accrocher parce qu'il nous fait le détail d'un maire qui a en face de lui un homme délinquant, donc prenons cet exemple-là, puisqu'il se tue, je le cite encore, à demander son expulsion. Donc un maire, il y a des bailleurs sociaux, vous savez, qui s'occupent d'attribuer les logements sociaux à partir de critères qui évoluent au fil des années, qui ont évolué au fil des années. Et lui, le maire, quand il a affaire à un délinquant comme ça, il ne peut pas lui seul, mais le bailleur social non plus, ni même le préfet, ni même le procureur. Bon, c'est une décision qui se fait devant un juge, mais il faut que quelqu'un déclenche, apporte ce dossier sur le bureau du juge, ce que personne ne fait. En tout cas, peu de gens le font. Alors, il nous explique ce qu'il a dû mettre en place, hein, il est maire de sa ville. Donc, un, il travaille avec un avocat pour contraindre les bailleurs sociaux à engager des procédures d'expulsion contre les délinquants qui occupent ces logements sociaux. Donc déjà, lui, il embauche un avocat qui travaille pour essayer de contraindre les bailleurs sociaux qui ne le font pas forcément tout seul. Il part du bon sens même. Son parc de logements n'est pas extensible. Il y a des gens qui en ont besoin. Et quand bien même certains n'en auraient pas besoin, ça c'est un commentaire très personnel, il y a des gens qui ne le méritent pas, tout simplement en réalité. Et ensuite, il existe dans son département une convention qui a été signée. Il le précise lui-même, ça existe dans très peu de départements en France et c'est bien dommage. Une convention tripartite entre le préfet, le procureur et les bailleurs sociaux qui permet à ces trois autorités d'échanger les informations et donc de constituer, si nécessaire, plus facilement les dossiers d'expulsion. Parce qu'il faut le motiver, hein, le dossier d'expulsion, pour virer quelqu'un d'un HLM. Donc, à partir de cette convention, le maire, quand il voit qu'un individu ou une famille accumule des rapports de police municipale pour des faits qu'il estime sérieux, et il juge bon de préciser ce qu'il estime un fait sérieux, des faits graves, répétés, avérés, de violence, violence en réunion, port d'armes, trafic de stupéfiants et vol. Encore une fois, il a raison de le préciser parce qu'on se dit, on est sur de la délinquance sérieuse, voire de la criminalité en l'occurrence. Donc comme les rapports sont transmis aux autorités par le biais de cette convention, le maire, qui est garant de la tranquillité publique dans sa ville et qui prend au sérieux la mission que lui ont confié ses administrés, il saisit lui-même le bailleur, puisqu'il a accès à ses rapports. Et il lui signifie que l'un de ses locataires nuit à ses obligations de maire, puisqu'il rappelle par le biais de la convention que les locataires de logements sociaux, enfin les habitants de logements sociaux, sont obligés d'observer par ailleurs cette tranquillité et que lui en est garant et que donc il a un gros problème. Et il les invite à se rapprocher de son avocat pour avoir les détails et constituer la demande d'expulsion devant le juge. Et alors il précise dans son courrier, quand il écrit au bailleur, que sans la réaction du bailleur, il considère qu'il y a opposition à ses pouvoirs de maire. Donc c'est une sorte de contrainte assez sérieuse. Et nous explique-t-il, dans 95% des cas, la réponse est positive et les bailleurs portent le dossier devant le juge. Donc il n'y a pas, je le précise parce que, donc il n'y a pas de débat sur le fond.
C'est ça.
Sur le fond de la délinquance et sur le fond de l'opposition à la convention qui est signée quand vous arrivez dans un HLM et où vous vous engagez à vous tenir correctement, notamment vis-à-vis de vos voisins, tout simplement. Donc, les dossiers sont transmis. Évidemment, le juge est souverain dans sa décision. Mais le maire nous dit, un, les résultats sont plutôt bons. Et deux, le message passe. Le message passe que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Alors, vous voyez, je me suis un peu attardée pour vous préciser le branle-bas de combat qu'il faut pour expulser un délinquant récidiviste. Et il nous explique, l'an dernier, 7 ou 8 dossiers sont arrivés à terme, une dizaine cette année. Il le précise en disant que c'est une ville de 40 000 habitants. Donc, quand on dit en permanence que quelques-uns peuvent pourrir la vie de tout le monde, ben, il serait bien que ces quelques-uns payent. C'est pas énormément de gens, mais ceux-là, même ceux-là, jusqu'à maintenant, on ne les fait pas payer. Et il précise qu'il a écrit aux députés du Val d'Oise. Hein, alors, il y a LREM, Horizon, LFI, Europe Écologie Les Verts, Modem, vous avez tout ce qu'il faut. Pour qu'il propose une loi pour empêcher, non mais je vous jure, on va d'hallucination en hallucination, pour empêcher le relogement de ces dossiers-là. Donc il faudrait une loi, le maire là en l'occurrence nous explique qu'il faudrait une loi parce que ces personnes, une fois qu'il a fait tout ce parcours du combattant, risquent d'être relogées dans un HLM, évidemment relogées, oui, mais dans un HLM. Et donc il nous explique qu'il n'a jamais eu de réponse d'aucun de ses députés.
Et puis on imagine, Charlotte Dornelas, les conséquences de tels profils dans les HLM, les enfants, les familles qui habitent à côté. Alors le préfet justement, Michel Auboin, vient par ailleurs de réaliser une étude sur les HLM pour la Fondapol et l'Observatoire de l'immigration. Qu'en est-il ?
Alors là, il décrit, alors ça n'a plus de rapport avec ce qu'on dit précédemment, mais il décrit un système de logement qui n'a plus d'abord sa vocation initiale qui était d'aider en transition des gens qui avaient besoin financièrement de ces logements. Et il dit, ça concerne des problèmes de violence, de délinquance, voire de criminalité, notamment pour la raison que vous venez d'évoquer. Et surtout, explique-t-il, ça empêche objectivement l'intégration par la concentration de population culturellement homogène. Et on l'avait vu, plusieurs maires étaient intervenus sur cette question, notamment Robert Ménard, je me souviens, avait beaucoup parlé de ça, de la concentration culturelle homogène, même au sein des bars de HLM différemment. Et d'ailleurs, il le dit, certains étrangers ne vont pas du tout dans les bars de HLM parce qu'ils y sont pas du tout les bienvenus quand d'autres nationalités ou cultures y sont. Et il donne des chiffres stupéfiants. Un, la France détient le quart des 21 millions de logements sociaux de l'Union européenne. D'ailleurs, le quart du nombre de logements sociaux qu'il y a dans l'Union européenne. Je vous dis ça parce que c'est pas comme si c'était une réussite, par ailleurs. C'est pour ça, il faut garder ça en tête. L'ajout dans la loi du droit au maintien en logement social fait que le taux de rotation est de 7% aujourd'hui. C'était initialement transitoire, précisément, pour pouvoir vous aider à accéder à la propriété. Le coût est de 34 milliards d'euros par an, quand même. Et vous avez un quart du parc urbain aujourd'hui qui est en HLM. Seuls 11% des Français non immigrés en bénéficient et 35% des immigrés aujourd'hui en France en bénéficient. C'est 57% des étrangers et descendants d'étrangers en provenance d'Afrique sahélienne. Je le précise non pas pour discriminer, comme on dirait, simplement pour expliquer qu'en effet, le phénomène de concentration, notamment culturelle, si vous voulez fracturer, aller faire des leçons de mixité sociale à je ne sais pas quelle école privée, je ne sais pas où, quand vous fabriquez des quartiers entiers de logements financés par les Français avec un poids extrêmement lourd dans les finances publiques et qui ne deviennent que des logements permanent pour des familles venues de l'étranger. Il y a d'abord une question de justice élémentaire à l'égard de vos administrés, de votre population, tout simplement, et deux, un échec cuisant de la volonté initiale de ces logements sociaux.
Excellente analyse, Charlotte, sur ce sujet, et j'espère que les autres maires ont bien suivi votre chronique. Direction l'Arabie Saoudite, non, plutôt direction l'ONU. L'Arabie Saoudite présidera la Commission pour les droits des femmes de l'ONU. Cette nouvelle, disons-le poliment, Mathieu Bocoté, suscite quelques réserves à travers le monde. Le royaume saoudien, qui n'est pas exactement un modèle en la matière, est-ce que c'est vraiment crédible ? Est-ce qu'il est vraiment crédible dans ce rôle ? On ne comprend pas trop. Au-delà même de l'indignation, non, ça c'est ma prochaine question.
Alors, allons-y de manière assez simple, en fait. Je ne chercherai pas à démontrer que l'Arabie saoudite est un enfer pour les femmes. Je le tiens pour acquis. 2+2.
Ils ont fait beaucoup d'efforts, en plus.
Oui, bien sûr qu'ils vont faire beaucoup d'efforts. Hein. C'est-à-dire que les femmes ont désormais le permis de conduire. Ils n'avaient pas du tout de droit du tout, et maintenant, ils en ont un tout petit peu. On est censé dire bravo, quel progrès. Alors, mais cela dit, je ne conteste pas qu'ils ont fait des efforts à partir de leurs standards culturels. Je tiens néanmoins pour acquis que d'un point de vue occidental, c'est un enfer pour les femmes. Donc, je le tiens pour acquis. Ce que je ne tiens pas pour acquis, c'est que l'ONU puisse un jour propulser à la tête de sa commission pour les droits des femmes l'Arabie saoudite. Dans les circonstances, dans une forme de stratégie diplomatique de respectabilisation internationale de l'Arabie saoudite, et que là, l'ONU se prête à ce jeu. Moi, le véritable scandale, il est là. Que l'Arabie saoudite soit ce qu'elle soit, à la rigueur, la diversité du monde est pour moi irréductible, elle est insurmontable. L'universalisme est une fiction européenne, à tout le moins c'est une fiction légitime européenne, mais il faut en revenir à l'idée que l'ensemble de la planète a vocation à vivre comme nous. Il faut rompre avec cette idée-là. Ça ne va pas arriver. Donc, les Saoudiens seront ce qu'ils sont, les Chinois seront ce qu'ils sont, et les Européens, les Occidentaux, en fait, n'ont plus le droit d'être ce qu'ils veulent être. Mais ça, c'est autre chose. Mais l'idée, le problème, le suivant, c'est que c'est le système onusien. Et je reviendrai dans un instant. Mais le système onusien qui décide, en fait, qui est une machine à fabriquer une normalité administrative, mais falsifiée, en propulsant l'Arabie Saoudite dans ce rôle. Et à partir de là, le système onusien, lui, se permet de se mêler de la vie des nations occidentales, de la vie de tant et tant de peuples, de tant et tant de pays, avec, dans cette espèce de comédie absolue, l'Arabie Saoudite responsable des droits des femmes. Je précise qu'il y a quelques années, c'était l'Iran. Hein, comme quoi, on est quand même dans le même univers de respect des droits des femmes.
Alors, mais qu'appelez-vous, Mathieu Bocoté, la critique du système onusien ? Vous parlez de la légitimité même de l'ONU, c'est ça ?
Oui. Je devrais dire pas complètement. C'est-à-dire qu'il y ait, sur le mode crise des missiles 1962, une instance internationale où les États puissent se parler les uns les autres pour éviter de virer à la guerre mondiale. Bon, très bien. Sur le fond des choses, l'ONU est un système qui, aujourd'hui, se retourne essentiellement contre les pays occidentaux. Il ne faut simplement pas l'oublier. C'est l'ONU qui, par exemple, envoie toujours ses rapporteurs en Occident, ses rapporteurs spéciaux, qui sont là pour nous accuser de discrimination, de racisme lorsqu'on applique la laïcité. C'est, en France, par exemple, au Québec aussi. C'est l'ONU qui envoie ses rapporteurs pour dire immigration massive, sans quoi vous êtes fermés au monde. C'est l'ONU qui plaide pour l'immigration massive. Aujourd'hui, c'est l'ONU qui a fait son pacte de Marrakech qui visait à normaliser le droit à la migration et à interdire la critique du multiculturalisme et de l'immigration massive dans l'espace public. C'est l'ONU qui, à travers tout cela, favorise l'islamisation accélérée des sociétés occidentales. Je ne dis pas qu'elle en est le responsable. Je dis que la technostructure onusienne favorise cette islamisation des sociétés occidentales, qui est directement responsable de la baisse des droits des femmes, la régression des droits des femmes dans nos pays. Donc non seulement l'ONU participe à la comédie, crée la comédie en mettant l'Arabie saoudite à la tête de la Commission des droits des femmes, mais participe ensuite à la déconstruction des droits des femmes dans nos pays. Comme aurait dit le général de Gaulle, l'ONU, c'est un machin. Je ne dis pas abolissons-le, je dis simplement cessons de le prendre au sérieux, ce machin.
Et vous avez commencé, Mathieu Bocoté, par parler de la petite Samara. Oui. Et on va terminer avec cette information qu'on vient d'apprendre. Merci, hein, Charlotte, de m'avoir transféré l'info. Un adolescent de 15 ans qui a été retrouvé inconscient entre la vie et la mort, aujourd'hui tabassé après les cours, près de son collège de Viry-Châtillon, victime de nombreux coups. Il a été hospitalisé dans un état critique. Voilà pour... Encore un jeune, encore un adolescent, encore devant un collège. Malgré ça, excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro et l'heure des Pro 2.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.